Et Mimi, Mimi, tu l'as mis où?
Ben, de quoi donc?
Le poste. C'est l'heure.
Ben, l'heure de quoi?
L'émission, la JT du local. Sûr qu'elle dépasse tout.
Hier, je vous le disais déjà, j'ai des tas d'histoires dans la tête. Je puise dans les livres, dans les spectacles ou encore au cinéma. Votre esprit, à vous aussi, se balade sans doute souvent dans des paysages qui ne sont pas ceux d'ici, dans des époques qui n'ont rien à voir avec la nôtre, à la rencontre de personnages qui ne sont pas nous, mais qui font parfois écho, malgré tout, à notre histoire ou à celle de ceux que l'on ne connaît pas bien. Que l'on parte à l'aventure avec des histoires contemporaines ou que l'on se plonge dans un roman historique, je considère ces échappées comme indispensables. Et au micro de l'agité du local, aujourd'hui c'est un écrivain de chez nous qui nous parle de son dernier roman sorti le 1er septembre, Moulin Guillain. Tout à l'heure à notre micro, ce sera donc Jean-Yves Pageot. Bienvenue chers auditeurs, nous sommes le mardi 10 octobre et aujourd'hui on écoutera aussi la préfète Marie-Aimée Gaspari et le colonel Pierre-Yves Letron qui, suite aux annonces du président Emmanuel Macron la semaine dernière, nous explique l'implantation des nouvelles brigades de gendarmerie sur notre département. On terminera l'émission avec la chronique d'Onatien que vous connaissez bien maintenant. Avant tout ce beau programme, je vous propose un point sur les actualités locales. La semaine de l'emploi à Laval commence aujourd'hui avec plus de 60 manifestations. Cet événement aborde toutes les questions sur le recrutement et l'emploi en Mayenne. Que vous soyez demandeur d'emploi, étudiant, jeune diplômé, salarié, en quête d'un nouveau projet professionnel ou bien recruteur, cette semaine s'adresse à vous. Différentes thématiques seront abordées sur ces 4 jours, la reconversion et l'évolution professionnelle, la création d'entreprises, la découverte des métiers qui recrutent et toutes les questions autour de l'emploi en général. Toutes les informations concernant la semaine de l'emploi à Laval sont à retrouver sur le site internet semaine-du-6-emploi.laval.fr. À l'occasion de la journée paralympique, le département affirme son engagement auprès des personnes en situation de handicap en favorisant leur inclusion et leur accès à la pratique sportive de leur choix près de chez elles. La Mayenne est le premier département sportif de France et développe des actions afin de changer le regard sur le handicap. Il a notamment créé une équipe appelée la Team, composée de 10 sportifs ambassadeurs qui portent fièrement les couleurs de la Mayenne. Aucune différence n'a été établie entre les sportifs olympiques et paralympiques. Pour rappel, d'ailleurs, dans notre département, 21 732 personnes sont en situation de handicap, soit 7,1% de la population. 54% d'entre eux ont entre 20 et 60 ans. 54 clubs en Mayenne pratiquent le parasport, ce qui représente à peu près 950 personnes. À Laval, toujours une réunion publique sur la réussite scolaire avec Pierre Ouzoulias, l'un des vice-présidents du Sénat, est organisée jeudi 12 octobre. Cette réunion publique se tiendra de 18h30 à 20h à la maison de quartier des Pommerais, dans la salle du premier étage plus précisément. Pierre Ouzoulias sera accompagné de la commission du PCF 53. Et pour terminer, à Mayenne, l'ancien Noz va laisser place à un espace de loisirs. L'ancien magasin était situé quai Carnot à Mayenne. Il a été racheté début octobre et sera donc réinvesti en 2025 par un espace de loisirs, mais aussi des commerces et des bureaux. En début d'émission, je vous le disais, c'est un écrivain mayennais à notre micro aujourd'hui. Bonjour Jean-Yves Pageot.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez de sortir tout juste le 1er septembre un nouvel ouvrage. On vous connaît déjà, vous êtes déjà venu dans l'agité du local nous présenter vos précédents ouvrages. Donc là, c'est aujourd'hui le 4e, Moulin Guillain. Est-ce que peut-être vous pouvez vous représenter pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore ?
Oh, je suis un Mayennais de toujours. J'ai fait mes études au lycée Ambroise-Paré. D'ailleurs, le roman est dédicacé à deux de mes anciens professeurs, un professeur de français et un professeur d'histoire. Ça remonte aux années 60, mais c'est pas grave. Et ça résume bien un petit peu ce roman, puisque l'amour de la littérature, ça va de soi. Et puis, c'est un roman historique. Donc, on retrouve mes deux passions, on va dire ça. J'aime pas tellement le mot, mais on va dire ça comme ça, quoi.
Donc, on peut revenir brièvement sur vos trois précédents ouvrages que vous êtes venus présenter donc dans la JT du local ces dernières années. On a le premier ouvrage qui s'appelle « Le feu à l'âme ».
Oui, c'est ça.
Qui est une histoire plus contemporaine à partir
d'une histoire vraie. Je résume. Hein. C'est l'histoire d'une jeune femme d'origine congolaise qui était choyée par son père à Brazzaville. Et quand elle arrive en France, eh bien, elle n'est pas du tout armée et préparée à affronter un pays qu'elle ne connaît pas et des conditions de travail et des conditions d'un tas de choses qu'elle ne s'attend pas du tout à trouver.
Le deuxième ouvrage, Seul et Mio, donc c'est un ouvrage toujours plutôt une histoire contemporaine.
C'est un roman, Seul et Mio, c'est un roman qui aborde des problèmes contemporains. L'histoire, on peut la résumer en deux mots. C'est un jeune célibataire, surtout retraité, qui vit tout seul au bord d'un chemin de halage, qui pourrait être le halage de la Mayenne. Il vit dans une très vieille auberge qu'il est en train de retaper avec vaguement l'intention d'en faire un gîte. Et puis un jour, en juillet, il y a une maman en vacances en vélo et ses trois enfants qui s'arrêtent. Il y a un gros orage, il leur dit bah, « je vais vous garder pour la nuit, vous n'allez pas planter votre tente sous la pluie ». Et ils ne vont pas repartir.
J'ai pu échanger avec vous un petit peu avant cette interview. Effectivement, vous m'avez raconté un peu ces histoires. Et effectivement, on a tout de suite envie d'avoir les ouvrages entre les mains et puis de pouvoir découvrir la suite, puisque votre troisième ouvrage, « La colline des fainéants », donc un titre qui interpelle, qui pose question.
Ben, y a une petite provocation dans le titre. Ben, un livre, il faut intéresser les gens. Donc, si vous, ça vous a interpellé, de ce côté-là, ça ne peut pas être trop mal. Voilà, c'est l'histoire de deux sœurs qui ont 45 ans, ça se passe vers 2010, par là, qui vont là où leur mère a vécu en 1970, c'est un camp de hippies. Donc, ce groupe de jeunes qui venaient, qui s'installaient n'importe où, si possible dans un endroit où il n'y avait pas grand monde. Et là, ils arrivent dans une région française assez pauvre, dans le Massif central, et ils se mettent à côté d'un village où les gens travaillent comme des malheureux pour gagner 4 sous. Et ils ont squatté. Et bien, pour les gens du pays, la colline, bah, c'est celle où il y a des feignants, quoi.
Il y a toute une histoire du coup qui se tissera entre ce qui a pu se passer dans ces années 70.
Il y a un parallèle. Voilà. Il y a un parallèle entre ce qui s'est passé dans les années 70 et ces deux jeunes femmes qui veulent comprendre ce que leur maman a vécu.
Tout de suite, ça nous donne effectivement très envie de connaître ces histoires. Mais aujourd'hui, on va tout particulièrement parler de Moulin Guillain. Donc, c'est votre nouvel ouvrage qui vient tout juste de sortir. Et alors là, on n'est plus dans une époque contemporaine. Là, on est plus dans quelque chose d'historique, avec peut-être une pointe de fantastique, mais c'est vous qui allez me le dire.
Alors, on est à une période historique, puisque c'est sous Louis XIV. Ce que je voulais faire avec cet ouvrage, c'était décrire la vie telle que les gens la vivaient dans un petit village de la France profonde à cette époque-là. Ceux qui s'attendent à ce que je parle de Versailles ou des romans de Capet-d'Épée, non, pas du tout. On est dans un petit village où s'affrontent ou s'allient trois pouvoirs. Il faut se dire qu'à l'époque, c'était comme ça. Le grand pouvoir, littéralement omnipotent, c'était l'Église, dont tout le monde avait la trouille, parce que la colère de Dieu, c'était effrayant. Il y avait, de manière beaucoup plus pragmatique, le châtelain du coin. En l'occurrence, ici, c'est un vigneron qui habite un manoir, qui, lui, donne du boulot à tout le monde. Donc, on essaie de ne pas se mettre trop mal avec lui. Et puis, il y a le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est la sorcière, qui habite dans la montagne. Alors, contrairement à ce qu'on croit, on ne brûlait pas toutes les sorcières. Il y en a quelques-unes qui se sont fait brûler parce qu'on ne voulait pas les pendre, bon, qui avaient fait des choses abominables, empoisonner des gens, etc. D'accord. Mais la plupart des sorcières, il faut bien vous dire que c'était des gens précieux. c'était des gens qui connaissaient parfaitement les plantes, qui étaient donc tout à fait capables de créer des onguents, des ce que vous voudrez, des tisanes, etc. Et qui soignaient les gens, surtout dans les campagnes où il n'y avait pas de médecin. C'était des gens qui étaient très psychologues, qui justement jouaient de leur côté un petit peu sulfureux, un petit peu magique, justement pour convaincre les gens qui venaient les consulter. Et la sorcière, dans ce roman-là, a un rôle important.
Donc, le personnage principal, vous l'avez dit, est Guilin. On ne va pas trop en révéler sur cette histoire.
Non, mais ce que je peux dire quand même, que c'est un enfant adoptif. Il est adopté par un meunier qui lui-même s'appelle Guilin. Et à l'époque, ça s'est prolongé longtemps après d'ailleurs, le fils aîné avait le même prénom que son père. Donc, il s'appelle Guilin aussi. C'est un enfant, c'est pas un enfant extraordinaire, c'est simplement un enfant gentil, intelligent et travailleur. Il y a une sorcière, et c'est une sorcière telle qu'elle était vraiment, c'est-à-dire qu'elle jouait sur les croyances et la terreur des gens qui venaient la consulter, mais qui aussi, quand elle est avec des gens cultivés, casse justement le processus. Je vais vous donner un exemple. Il y a le châtelain qui vient la voir et elle, dès qu'elle le voit, elle lui dit « Tu viens me voir parce que tu as un problème avec ton épouse. » Le châtelain, évidemment, est sidéré. Il dit « Ça se voit que vous êtes une magicienne. » Il dit « Non, pas du tout. Tu as de l'argent. Tes vignes rapportent bien. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas de soucis. Donc, tu peux avoir de soucis qu'avec ton épouse. » Veuillez, et casse littéralement le processus.
Donc c'est en cela peut-être qu'effectivement, quand on parle de fantastique, l'histoire ne va pas être envahie de magie. Ce n'est pas l'idée en fait du roman.
C'est exactement l'inverse. Je laisse une pointe, allez, on va le dire, de fantastique, au sens où il y a une histoire de chien. Guilin aura une chienne énorme, grosse comme un petit poney. Elle aura un rôle important de compagne de Guilin, et puis mais dans le fantastique c'est tout, il n'y a que ça, le fantastique, le reste c'est une histoire avec des difficultés, des rebondissements,
des relations entre les personnages,
voilà, et quelquefois violentes, parce qu'il n'y a pas que des gens sympathiques.
Le spectateur est tout du long baladé. Alors, d'un endroit à un autre.
Oui, mais c'est le rôle aussi d'un auteur ou d'une autrice, hein. On raconte une histoire. Si au bout de trois lignes, on a deviné tout ce qui allait se passer après, autant lire le quatrième de couverture et puis de le laisser sur les étagères. Non, c'est notre rôle aussi de raconter une histoire belle, avec des rebondissements, d'égarer un petit peu le lecteur ou la lectrice, l'envoyer sur des fausses pistes. Et puis, c'est un jeu. Ça, c'est un jeu. Ce qu'il faut, c'est que la première chose qu'il faut, c'est que le lecteur ou la lectrice aille au bout du livre. Il y a beaucoup de livres, ça m'est arrivé peut-être à vous aussi, une fois que vous avez lu 30 pages, 40 pages, vous dites « bon, allez, c'est bon, je pense à un autre, parce que ça ne m'accroche pas ». Donc c'est à nous d'accrocher le lecteur ou la lectrice, puis après on joue. On en joue et il faut que quand la personne referme le livre, elle se dise « j'ai aimé ». Et ça, c'est quelque chose qui remonte à mon enfance. Étant enfant, je lisais énormément. Et quand je finissais le livre, j'étais heureux d'avoir participé à cette histoire-là.
C'était votre satisfaction. Et dans cet ouvrage, vous me le disiez tout à l'heure, avant le début de cette interview, il y a une part d'humour, de légèreté, en fait, dans l'ouvrage aussi.
Mais dans la vie, on a des moments tristes, on a des moments drôles, on a des moments angoissants, on a des moments où on apprend. Le roman est ce reflet-là. Personnellement, dans tous mes livres, je suis attaché à avoir justement un petit peu de tout ça. Dans mon style, j'utilise énormément le dialogue. Ça aide beaucoup à la fluidité, ça accroche bien les gens, et en même temps, ça permet d'avancer d'une manière assez, assez agréable, quoi.
Le roman de Jean-Yves Pageau, donc Moulin Guilin, édité au Lys Bleu, est à retrouver dès maintenant donc dans différents points de vente sur notre département. Il y a Emlire.
En Mayenne, on est un petit peu privilégié puisque je suis là. Donc il est déjà sur Laval, vous avez la librairie indépendante Emlire. Il est à la FNAC, il est à l'espace culturel Leclerc de Saint-Berthevin. Vous le retrouverez à Évron, vous le retrouverez à Mayenne, etc. Et de toute façon, tout point de vente peut le commander chez l'éditeur.
Donc, possibilité de le retrouver partout. Et surtout, on peut vous retrouver vous aussi samedi à la FNAC, puisque à partir de 15h, vous serez là pour dédicacer vos ouvrages, donc à Laval, à la FNAC de Laval.
Voilà, c'est ça. J'ai juste oublié un lieu où on peut retrouver le livre. C'est la librairie itinérante Le Mange-Livre d'Alice Stracy. Qui, elle, a le livre, a les quatre livres d'ailleurs. Elle a les quatre livres dans son camion.
Je crois bien que vous vous y rendez par moment, donc peut-être qu'il y aura
chaque sortie, à chaque sortie de livre, effectivement, j'ai fait sa tournée en dédicace. Pour Moulin-Guilin, on le fera aussi certainement.
Donc l'occasion
d'ici quelques semaines.
De vous croiser aussi. En tout cas, merci beaucoup Jean-Yves d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir présenté cet ouvrage et d'avoir ces mots qui nous donne envie de l'avoir déjà entre les mains et de parcourir toute cette histoire seule chez soi ou de le faire partager à d'autres en tout cas.
C'est très gentil Margot, merci. Ça me donne très envie de revenir vous voir avec le prochain.
Bah écoutez, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup Jean-Yves.
Merci.
Dans quelques instants, on écoutera les informations spécifiques à notre département concernant l'annonce du président de la République sur l'implantation de nouvelles brigades de gendarmerie sur l'ensemble du pays. Mais comme c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous le morceau qui aujourd'hui me fait du bien, on écoute maintenant la voix de Maple Glider avec son titre Dina.
Church, making sure no one's looking.
de retour dans l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. La préfète Marie-Aimée Gaspari et le colonel Pierre-Yves Letron, commandant le groupement de la gendarmerie du département de la Mayenne, ont communiqué suite à l'annonce d'Emmanuel Macron informant de la mise en place de nouvelles brigades de gendarmerie dans les zones rurales et périurbaines. Ensemble, ils nous expliquent ce qui va se passer sur notre département.
Le président de la République a annoncé hier un plan 200 brigades, qui est un plan d'envergure nationale, qui consacre un effort inédit de renforcement de l'offre de sécurité dans nos territoires, avec la création de 238 brigades qui vont être réparties dans tous les départements, des brigades fixes et des brigades mobiles. C'est en fait une volonté assez forte du président de la République d'adapter le maillage territorial de la gendarmerie à la fois aux évolutions de la démographie et à l'évolution de la délinquance. Donc on a un maillage désormais beaucoup plus important de la gendarmerie qui va permettre de mieux lutter contre toutes les formes de délinquance, mais aussi d'assurer une présence de proximité dans les territoires qui sont les plus ruraux et les territoires périurbains. En termes d'efforts, je pense que l'effort doit être quand même souligné, puisque ça veut dire qu'à horizon 2027, on aura à peu près 3300 brigades qui mailleront le territoire national, avec la création à peu près de 2100 effectifs de gendarmes d'actifs. Donc c'est un effort considérable en termes de création nette d'emplois pour armer ces nouvelles brigades. Au niveau de la région des Pays de la Loire, nous devrions avoir, selon les annonces, 12 brigades complémentaires, 4 brigades fixes et 8 brigades mobiles, et donc une pour la Mayenne. Ce plan, je le disais, est un plan national qui a imposé des arbitrages au regard d'un contexte particulier, qui est le contexte national issu alors de l'année 2023, avec toutes les violences urbaines que l'on a connues, des évolutions de la délinquance par rapport à 2022. Il a fallu aussi prioriser, et prioriser veut dire affecter les moyens là où les besoins sont les plus pressants. La Mayenne reste un département dans lequel la délinquance est encore contenue, même si on est très vigilant sur certains indicateurs qui évolue plutôt à la hausse, mais nous ne figurons pas, comme vous le savez, parmi les départements les plus criminogènes, et l'on peut s'en réjouir. On arrive encore à contenir le phénomène délinquant en ayant une présence renforcée, ce que va nous permettre sur la voie publique, ce que va nous permettre la création de cette brigade. La particularité de la Mayenne, c'est que c'est un département qui est aux portes de l'Ouest, pas très loin de Paris, et on a une délinquance parisienne qui se dirige vers l'Ouest, qui passe, qui traverse la Mayenne. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on a aussi une délinquance qui nous vient d'autres départements. Notre délinquance, elle est aussi beaucoup exogène, notamment dans tout ce qui concerne les atteintes aux biens, avec les cambriolages, les vols dans les exploitations agricoles, les vols à l'intérieur des sociétés et des domiciles des particuliers. Toute cette délinquance-là est majoritairement exogène, donc elle nous vient de l'extérieur. Donc on a du mal à élucider ces faits. Et pour nous, l'action la plus efficace pour contrecarrer ce phénomène délinquant, c'est justement d'être présent sur la voie publique pour à la fois faire de la prévention et intervenir éventuellement en flagrant délit.
Les effectifs sont un peu fluctuants de temps en temps puisqu'il y a des départs et des arrivées, mais effectivement, mon tableau d'effectifs, c'est 400 militaires d'actifs et 200 gendarmes de réserve. Et ces 200 gendarmes de réserve sont implantés en Mayenne, sont mayennais, connaissent leur territoire, ont leur réseau, je dirais, personnel, professionnel, et viennent enrichir en fait leurs camarades d'actifs au quotidien dans la bonne compréhension du territoire, dans sa bonne appropriation et dans la bonne application, je dirais, des effets de prévention sur le terrain au profit de la population et des élus. Ce plan national vient directement compléter le maillage qui était déjà en place, les travaux qui ont été conduits par un certain nombre de mes prédécesseurs depuis quelques années, pour être au plus près de la population et plaqué sur les besoins de cette population. Et effectivement, ces 6 effectifs qui vont arriver à Château-Gontier vont me permettre de dégager d'autres effectifs au sein de mon unité pour aller renforcer le Nord Mayenne et produire les mêmes effets dans le Nord, à savoir des unités mobiles au profit de populations qui sont excentrées des brigades déjà existantes et apporter au plus près tout secours ou tout besoin de la population dans son quotidien. C'est vraiment l'amélioration du quotidien du citoyen qui est visé par ce plan. Pas de manque. On a mis en place en fait un dispositif lui aussi maillé pour lutter contre les violences intrafamiliales, qui sont des phénomènes particulièrement ancrés sur le territoire de la Mayenne et sur l'ensemble du territoire. Nos brigades, avec un dispositif de gestion des événements, c'est du police secours, sont là de jour comme de nuit pour répondre aux sollicitations justement des hommes et des femmes victimes. Ce qui permet d'engager systématiquement sur un appel violence intrafamiliale une patrouille, une réponse opérationnelle et si nécessaire une garde à vue en lien avec les services du parquet. Et pour compléter ce dispositif, avec l'aide aussi du conseil départemental mais aussi des services de l'État, nous avons mis en place une maison de protection des familles qui vient compléter ce dispositif après l'intervention. Voilà, et qui permet de traiter le dossier dans la durée pour éviter la récidive. Et c'est quelque chose qui marche très très bien en Mayenne, avec un dispositif qui est bien imbriqué avec l'ensemble des services, avec les associations locales, pour justement faire de la prévention, avoir un dispositif de réaction qui soit opérationnel et permanent, et derrière un accompagnement des victimes, mais aussi des auteurs, pour prévenir la récidive.
Comme chaque mardi en fin d'émission, on a le plaisir d'écouter la chronique de Donatien. Je ne vous dis rien sur ce dont il va nous parler. Sa chronique, c'est toujours comme un présent qu'il nous amène. Je lui laisse le micro. Les meilleures surprises sont celles qu'on ne voit pas venir, paraît-il.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, l'écran en ce temps-là. S'il était fleuri de lilas, c'était en noir et blanc, et la couleur, c'était l'accent de Fernandelle qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. Mireille le chantait avec une coupe au carré, la même que celle de Brigitte Bardot, de Stone avec ou sans Chardenne, de Mireille d'Arc quand on enviait Pierre Richard dans le rôle du grand blond, de France Gall, à qui chacun rêvait d'offrir une sucette à la nuit. Même coupe au bol dans les années 2000 pour Laetitia, rappelez-vous, l'épouse d'un certain Johnny, lourd comme un cheval mort dont on ne doute pas qu'aujourd'hui il existe encore. Ah, ils étaient venus, ils étaient tous là le jour où le rocker rejoignit Michel Berger dans son paradis blanc. Il y avait les politiques, les présentateurs, les animateurs, les copains chanteurs, même Eddie Mitchell, pour une dernière séance d'adieu avant que le rideau définitivement ne fût tombé. Je crois qu'il n'a rien dit ce jour-là, le rocker, de tout ce qu'il avait sur le cœur. En revanche, que d'importuns a défilé sur CNews, Public Sénat, BFM, France Info et même sur les chaînes dites généralistes. Avec la mort de Jean-Pierre Elkabbach, rebelote. Les voilà tous qui la ramènent, anciens ministres, anciens collègues, anciens journalistes de la matinale, anciens directeurs des programmes, sautant sur l'actu, qui par téléphone, qui par visioconférence, qui en direct sur le plateau, après être passé au maquillage, témoigne de ce grand journaliste qu'était Jean-Pierre Elkabbach. Ses interviews percutantes, ses dossiers bien préparés, ses sujets approfondis, sa clairvoyance, sa lucidité, son professionnalisme qu'au son du tambour, les crieurs sur la place publique viennent célébrer dans des éloges posthumes et dithyrambiques. Donatien pense avec un sourire à François Mitterrand, à Georges Marchais, à Jacques Chirac et à Valéry, l'académicien immortel qui n'a pas plus que les autres échappé à son destin. Donatien imagine leur retrouvaille au-delà des satellites, dans un espace sidéral, à l'ombre des étoiles, quand la célébrité s'éteint, tout simplement. Donatien leur souhaite une bonne partie de plaisir hors du champ des caméras. Donatien espère que, si Elkabbach la ramène avec ses questions assassines qui, là-haut, ne font plus de victimes, l'imitateur de Georges Marchais, dans un éclat de rire, saura lui lancer cette réplique toute théâtrale. « Taisez-vous ! Elkabbach, avec une sincérité et un amour de toute éternité. Donatien, en attendant son tour de prendre l'ascenseur pour rejoindre ses guélurons, n'écoute aucun de ces panégyriques bavards. il regarde une autre Brigitte en retrait, la femme du président. Brigitte et sa coupe au carré, qui nous rappelle que si le temps passe vite, une phrase peut devenir culte et une image peut devenir éternelle.
Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit,
on n'est pas là pour se faire engueuler,
on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des vins. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là, on a trépassé le soir même et voilà. On se retrouve au paradis vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement.
On vient d'écouter « On n'est pas là pour se faire engueuler » de Boris Vian, la proposition musicale de Donatien. Et je dois vous le dire, on est déjà arrivé à la fin de cette émission. À 19h, vous écouterez à la Jeunesse les micros, une série de reportages enregistrés par des jeunes cet été au Festival d'Avignon. Un croisement entre des metteurs en scène, des comédiens, des chanteurs et des associations. Cette émission sera suivie à 20h de Frères de Chaussures, votre émission hebdomadaire sur le rap français. La JT du local revient demain à 12h15. D'ici là, prenez soin de vous, évidemment, et surtout, faites le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.